Divergence FM présente l'Hebdo du Sherpa, une émission animée par David Bou. Tous les mardis de 18h à 18h30, un gros sac à dos d'informations. Chaque semaine, une revue de presse et une interview percutante. Théâtre, gastronomie, voyage et bien d'autres sujets. L'Hebdo du Sherpa, en direct tous les mardis, de 18h à 18h30.
Bonjour à tous et bienvenue, chers auditeurs, vous êtes sur Divergence FM, l'Hebdo du Sherpa. Aujourd'hui, deux invités de qualité, encore une fois, Jean-Marc Groul, directeur du Sequarium, qui va venir notamment nous parler de la grosse actualité du Sequarium, actuellement le requin blanc. Alors, ce n'est pas un vrai, hein.
Non, pas de panique, c'est une réplique.
Mais cela dit, ça ne manque pas de vrais requins dans le Sequarium. Bonsoir, Jean-Marc.
Oui, bonsoir.
Notre deuxième invité est Aurélie Duménie, qui est la responsable de la ferme dorée basée à Rougen et qui est spécialisée dans la randonnée avec les lamas, qui a également un élevage de chèvres angora.
Oui, la chèvre angora.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Aurélie. Parce que tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, j'ai dit mouton, c'est ça, non, j'ai dit
tout
mouton,
à fait, oui. On peut le confondre.
Je me suis fait engueuler, du coup. On commence tout de suite avec Jean-Marc Groul, qui est le directeur du Sequarium et qui vient... Bon, évidemment, on va parler de manière générale du Sequarium, du Gros du Roi. Mais l'actualité, c'est le requin blanc, enfin une réplique du requin blanc qui est actuellement, enfin qui va être exposé, hein, c'est ça?
Oui, exactement, oui. Un requin blanc, donc une réplique du plus grand requin blanc jamais pêché par l'homme. C'était donc en 1945, il y a de ça un moment. C'était à Cuba.
Ah oui, ça remonte loin.
Hein. Oui, fait le plus grand requin blanc jamais pêché. Oui, c'était 6 mètres 40. Donc, dans
6 mètres 40 quand même, Aurélie. À côté, le lama, il se fait vite bouffer quand même.
Oui,
je
oui.
Pense, hein.
Heureusement qu'il ne se baigne pas.
Voilà, mais bon, bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est un des requins. Hein. Il y a 450 espèces de requins. La plupart des requins sont petits en réalité. Mais bon, le grand requin blanc, c'est un requin mythique. Très peu de gens ont pu être confrontés à ce requin-là. Quelques privilégiés dans des cages en Afrique du Sud, en plongée. Et donc, on a eu envie de confronter nos visiteurs à, bien sûr, ce prédateur magnifique qui, aujourd'hui, est en danger. C'est pour ça qu'on a voulu lui rendre hommage.
C'est une réplique, ce n'est pas un vrai requin. C'est une réplique à taille réelle qui a été créée par un artiste sculpteur spécialisé dans la sculpture animalière. C'est Jean-Pierre Palencia, c'est ça?
Oui, Jean-Pierre Palencia, qui a travaillé pour le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est basé à la Réunion et qui a toujours travaillé donc avec les animaux marins. Et pour lui, c'est un aboutissement. Il a fait énormément de requins, mais il ne s'est jamais attaqué à une sculpture aussi importante. Aujourd'hui, il ne travaille plus avec des animaux, on va dire, des restes d'animaux réels, mais il fait bien des répliques. Donc, il sculpte et puis ensuite, avec de la résine, il reconstitue exactement, avec les tailles données par les scientifiques, l'animal qu'il traite.
Il y aura bientôt des photos sur le site internet, j'imagine, du Sequarium. Hein,
c'est oui, ça c'est samedi que le requin sera donc visible par le public.
Voilà, alors parlons-en. Donc, c'est ce samedi 12 juin. C'est à partir de quelle heure qu'on peut venir le voir?
Le matin, à l'ouverture donc, du Sequarium, à 9h30. On pourra donc, à partir de là, dans le Roquinarium, qui est la nouvelle partie qui a été ouverte l'année dernière au mois de mai, à la fin du parcours, on pourra donc découvrir cet animal qui est vraiment très, très impressionnant. Moi-même, je suis... impressionné par la taille du requin blanc lorsqu'on est confronté à lui. C'est quelque chose de très, très beau à voir.
Alors, le requin, finalement, est-ce que c'est la spécialité du Sequarium, on peut dire. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois au Sequarium. C'est absolument génial. Cet aquarium est très, très bien conçu. Parce que c'est vrai que ça commence par les petites espèces. Les poissons de Méditerranée. Puis petit à petit, il y a un circulatoire qui est assez bien foutu. Pour finir, par les requins, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'espèces. C'est vraiment très rare de voir autant d'espèces de requins dans un aquarium. Hein. Enfin, dans un Sequarium, je veux dire.
Oui, on a près de 30 espèces aujourd'hui qui sont présentées.
30 espèces de requins.
Oui, alors ouais. Donc, c'est pas une course à l'espèce non plus, parce qu'on fait attention à ce que les requins qu'on présente soient bien en captivité.
Bien traités, j'imagine.
Bien traités, mais qu'eux aussi aient une biologie qui s'adapte à la vie qu'on leur propose. Et en plus, de plus en plus d'animaux qui sont reproduits. Donc nous faisons de la reproduction. Hein. Il y a des requins donc, qui ont déjà plusieurs générations au aquarium. D'autres collègues dans d'autres aquariums également reproduisent. Et on essaie actuellement de mettre de plus en plus de requins, on va dire, de reproduction, qui ne sont pas des sauvages, en présentation.
Ah oui, ça fait donc une très belle population sous-marine. Il y a pas que les requins, mais c'est vrai que les requins fascinent. Je vais peut-être dire une bêtise en disant ça, mais c'est peut-être 70% qui viennent pour voir les requins, non, aussi, Corium?
Alors 70%, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient.
Ils sont fascinés, tout le monde est fasciné.
Voilà, donc il y a une fascination. Le Sicorium, il y a 20 ans, donc, a été ouvert. Hein,
il a 20 ans, le Sicorium.
Oui, il a 20 ans. Et donc, lorsqu'il a commencé, c'était le premier tunnel requin qui a été proposé en Europe. Donc il y a eu déjà le logo.
Aurélie, vous êtes allée faire un tour au Sicorium?
Oui, mais il y a quelques années déjà.
Quelques années, donc vous avez vu le tunnel au requin, j'imagine?
Tout à fait, voilà. Oui.
C'est assez impressionnant.
Voilà,
ça.
Et donc ce tunnel, donc, au fur et à mesure, bien sûr, a vieilli, même qu'il soit très beau et toujours très apprécié. Et l'année dernière, nous avons donc ouvert le Requinarium, qui était le premier espace, ce coup-ci, avec des aquariums, mais également de la muséographie. On a voulu raconter l'histoire des requins. C'est un animal qui nous intéresse énormément, qui est menacé, comme on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 100 millions de requins pêchés par an. Il faut vraiment stopper ça.
Principalement au Japon, on peut dire
Principalement, mais il ne faut pas quand même juste stigmatiser nos collègues asiatiques.
On peut le faire quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même...
On peut le faire, mais n'oublions pas, par exemple, que les émissoles, aujourd'hui, sont en voie de disparition en Angleterre à cause des fish and chips. Oui, c'est uniquement du requin qui est mangé.
Je ne savais pas.
Voilà. Nous-mêmes, en France, nous pêchons également beaucoup de requins. Donc, il y a les pêches accidentelles.
Pêche accidentelle,
pas de problème. Mais lorsqu'on cible des espèces commerciales, les requins disparaissent très, très vite. Ce sont des animaux qui mettent longtemps à se reproduire, qui sont fragiles. C'est vrai qu'ils n'ont pas été préservés parce que personne n'a envie de protéger un requin. On en a plutôt peur pour l'instant. Et nous, on veut montrer justement que ce sont des animaux passionnants, très fragiles. Et tous les élèves qui viennent, encore ce matin, on était avec des classes, là, on finit bien sûr par faire aimer les requins et ce qu'on veut par-dessus tout pour que les prochaines générations puissent le sauver. Il faut carrément employer le terme de sauver parce que ce sont des prédateurs, bouts de chienne. Ça serait vraiment dramatique que les requins disparaissent des océans.
Oui, ils font partie des écosystèmes. C'est un des maillons de la chaîne de l'écosystème marin.
C'est vrai qu'il faut le souligner.
Oui, ils sont surtout en bout de chienne et ça aurait des conséquences très, très lourdes si les requins disparaissaient. Et
votre rôle aujourd'hui, c'est vrai que bon... les zoos et les aquariums aujourd'hui ne sont pas très bien perçus par la population écologique en tout cas. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux écologistes qui vous disent ça reste quand même un zoo, une sorte de zoo dans laquelle on parque les animaux.
Un milieu captif. Donc c'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses années, et nos collègues des zoos l'ont fait avant nous, il faut le reconnaître. Les zoos aujourd'hui sont vraiment tournés vers la protection. Et ce n'est pas uniquement pour se couvrir. Ce sont des gens qui sont engagés, qui préservent sur le milieu, qui reproduisent des animaux dans les parcs zoologiques, qui les échangent. Il y a des bourses d'échange et qui engagent énormément d'argent vers l'extérieur. Et donc, ils ont commencé. Les aquariums ont suivi. Hein. Dans les années 90, on était axé sur la pédagogie. On disait « un aquarium, c'est fait pour apprendre ». Aujourd'hui, on a un vrai rôle au niveau de la préservation.
Des espèces.
Hein, nous-mêmes aussi, Aquarium, nous sommes le centre de soins des tortues marines sur les côtes françaises méditerranéennes. Donc, nous soignons les tortues.
Un rôle scientifique, hein, clairement.
Oui, pas de tortues aussi, Aquarium, pas de tortues marines à avoir. Nous les recueillons au centre de soins, nous les soignons.
Qui est aussi devant le Aquarium.
Oui, mais il n'est pas visible. Il est à l'intérieur des locaux. D'accord. Et donc là, c'est uniquement pour sauver les tortues marines. Et là, on a un vrai rôle de protection. Donc, les gens qui travaillent au quotidien aussi, sont impliqués. Et une fois que les gens qui travaillent, les biologistes sont impliqués, ils font au mieux possible pour traiter le mieux possible leurs animaux à l'intérieur. Et bien sûr, sensibiliser, aujourd'hui, c'est notre rôle, l'opinion aux problèmes que rencontrent les océans.
Les enfants notamment, j'imagine, en recevant pas mal de scolaires. Jean-Marc Hugroul, aujourd'hui, qu'on reçoit pour le Sicorium, qui vient nous présenter le Sicorium du Gros du Roi. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est vraiment une très belle visite, très documentée également. Combien de personnes travaillent au Sicorium, justement?
Aujourd'hui, nous sommes 25 à travailler au Sicorium. Et souvent, le chiffre, dont les gens pensent que tout le monde est avec les requins et a la chance de côtoyer requins, otaries, phoques, etc. Il y a 8 animaliers. Hein. Il y a 8 biologistes qui travaillent soit avec les mammifères marins, soit avec les autres animaux.
Alors justement, on a laissé une grosse part, évidemment, comme d'habitude, aux requins. Mais il y a beaucoup d'espèces. Alors, sans citer toutes les espèces, on peut au moins donner les familles d'espèces qui se trouvent au Sicorium.
Bien sûr, il y a plus de 350 espèces de poissons au Sicorium, plus des invertébrés. Et il y a, dans la première partie, tous les poissons de Méditerranée, les grands classiques, hein, dorades, loups, hein, tout ce qu'on imagine un petit peu dans l'assiette parfois. Oui. Mais il y a également, bien sûr, les murènes. Il y a des raies de Méditerranée qui sont très belles, des petits antias. Et puis les poissons tropicaux, toutes leurs couleurs, leurs formes particulières. Et avec le très célèbre aujourd'hui Nemo, que les petits viennent voir.
Poisson clown.
Voilà, le poisson clown, mais bien sûr de beaucoup d'autres variétés de poissons clown, des poissons chirurgiens, anges.
Alors c'est vrai qu'à l'époque de Nemo, il y a eu un drame à propos de l'achat des poissons clown en animalerie, paraît-il.
Alors là-dessus, bon, il faut être très clair. Le poisson clown et celui-ci est un poisson qui est totalement reproduit en captivité. La reproduction est maîtrisée. Je ne veux pas dire par là que tous les autres poissons tropicaux le sont. Loin de là, c'est une forte minorité. Le poisson clown a la chance, celui-ci, et l'ocellaris.
C'est vrai qu'il y a eu une polémique après.
Oui, mais l'ocellaris a la chance d'être un des poissons reproduits en captivité. On va dire qu'il a fait la richesse des fermes de reproduction en Floride de poissons clowns. Mais c'était une fausse polémique. Le stock de poissons clowns n'a pas du tout été tiré sur le milieu naturel. D'autres animaux, oui. Hein, d'autres poissons sont parfois menacés et il faut y penser.
Vous avez justement des espèces protégées dans le Sicorium ?
On a très, très peu d'espèces protégées. Il y a le mérou de Méditerranée hein, qui est protégé. Et aujourd'hui, cette protection-là a très, très bien fonctionné.
C'est des espèces qui viennent d'où ? De Corse ou...
Non, pas du tout. Non, ce sont des pêcheurs locaux qui accidentellement, bien sûr accidentellement, puisque la pêche n'est pas ciblée, ramènent et nous téléphonent. Et donc, nous, ces poissons-là, ben, on les recueille au Sicorium dans un premier temps. Et ensuite, ils sont souvent relâchés parce qu'on ne met pas plusieurs mérous ensemble. Donc aujourd'hui, on a une tendance, si vous voulez, à les
dans remettre. Dans un aquarium, ils risquent de se battre ou de...
Bah, ils pourraient se battre. Et puis après, ce n'est pas le but non plus de venir regrouper énormément d'espèces. Ouais. On leur laisse tout un territoire. Donc lorsqu'il y a trop de poissons, bien sûr, on les remet en mer lorsqu'il s'agit d'espèces méditerranéennes.
Aujourd'hui, les mérous, la population de mérous vivent où particulièrement? Bon, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en voir en Corse, au sud de la Corse, mais il y en a aussi
Toute la Méditerranée.
Toute la Méditerranée,
oui, c'est simplement l'interdiction de la chasse sous-marine qui a porté ses fruits. C'est un arrêté qui a été pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en 1990. Et ça a été un réel succès, puisqu'aujourd'hui, on revoit beaucoup de mérous, notamment bien sûr dans les réserves pour crocs, etc., mais également ici sur nos côtes.
Si ce n'est pas infesté par la taxifolia, il y a encore une polémique sur les îles de Porquerolles et Porquerolles qui sont un petit peu assaillies par les bateaux.
Il y a très peu d'espèces endémiques en Méditerranée, des espèces qui sont vraiment méditerranéennes. La plupart rentrent par le canal de Suez, bien sûr par le détroit de Gibraltar, et quelques-unes sont malheureusement introduites par l'homme, parfois par les parcs, hein, huîtres, moules, etc., ou alors accidentellement comme la Caulerpa taxifolia. La nature est bien faite. Avec le temps, tout ceci rentre dans l'ordre. Les animaux, mais obligatoirement. Et donc les animaux vont être intégrés. Il ne faut surtout pas le faire, mais une fois que c'est fait, il n'y a pas les conséquences dramatiques, comme on veut bien le dire. Les conséquences dramatiques, elles sont amenées par les fleuves et toutes les pollutions. Hein. Il ne faut pas oublier que tous les cours d'eau vont à la mer. Et donc la grosse pollution, elle est amenée bien sûr par tous les émissaires, toutes les rivières, tous les fleuves. Et là, oui, on va polluer avec des métaux lourds, avec des produits qu'on ne maîtrise pas du tout. Là, il y a des vrais, vrais soucis, plus la pollution par les déchets. Hein, lorsqu'on va au large du Gros-du-Roi avec un bateau, il suffit de regarder le nombre de sacs plastiques qui flottent dans le golfe pour être effrayé.
Si c'était qu'au Gros-du-Roi, malheureusement.
Quand je dis au Gros-du-Roi, c'est au large de nos côtes, bien sûr.
On parlait des espèces. Quelles sont les espèces les plus difficiles à nourrir, à soigner? Bon, est-ce que c'est les requins ou pas?
Non, les requins, d'abord, quand on parle des requins, il y en a, comme je vous dis, plus de 450 espèces, dont certaines sont très, très difficiles. Le requin blanc, il ne faut pas le prendre en aquarium. C'est un requin qui ne peut pas vivre dans un milieu fermé. Donc le requin bleu non plus. Ce sont des gros nageurs, etc. D'autres requins sont mieux adaptés. Donc ça dépend chaque fois de l'animal. Dans les poissons méditerranéens.
Alors, c'est quoi, parmi les requins les plus connus, oui. qu'est-ce qu'il y a alors comme espèce là?
Au Sicorium.
Il y a les requins marteaux, j'imagine.
Oui, les requins marteaux qui sont très particuliers au requinarium. Les requins taureaux, citrons, les requins nourrices, les requins zèbres également. Il y a beaucoup, beaucoup de requins. Et ce qu'on prend, bien sûr, ce sont des requins qui s'adaptent bien et qui vivent bien en captivité. Dans les espèces un petit peu difficiles, méditerranéennes très connues, le Saint-Pierre par exemple ou la Baudroie. Sont des espèces fragiles et très difficiles à maintenir.
Il y a des zones de quarantaine alors peut-être
Zones de quarantaine, prendre des animaux assez jeunes, et puis beaucoup de travail de la part des biologistes pour arriver à les alimenter, trouver les bonnes proies et arriver à avoir en fait un contact avec l'animal, hein, pour arriver à le mettre en confiance.
Ça fait du monde quand même à l'année sur le Sicuarium, hein, qui s'occupe de toutes ces espèces. C'est un beau travail que vous avez là, Jean-Marc Groul.
Ah oui, c'est un travail de...
Une vocation.
Passion, un travail de passion.
On voit en tout cas qu'il est passionné, hein, ça c'est sûr.
Oui, tous les collègues également, hein, les gens qui travaillent au Sicuarium sont passionnés. Dans tous les secteurs d'ailleurs, c'est ça qui est assez particulier, parce qu'on a dit qu'il y avait 8 animaliers. Les autres parfois sont commerciaux, administratifs, hôtesses d'accueil.
Alors justement, sur votre parcours à vous, c'est quoi vous,
Moi je suis biologiste.
Hein, vous êtes biologiste, ouais, à la base.
Je suis biologiste, je fais mes études à l'université de Montpellier. Et donc, j'ai fait des études en biologie, on va dire, classique, en biologie animale et végétale. Et puis, la rencontre de professeurs, professeur Paris, Quignard et Eusé, m'ont carrément orienté vers le milieu marin. Et à partir de là, bon, j'ai pu accomplir ma passion.
Ça fait combien de temps que vous travaillez au Sicuarium ?
Depuis l'ouverture. Donc, depuis je suis rentré comme biologiste en 1989. Au Sicuarium.
Et à donc, qui appartient le Sicuarium aujourd'hui ? C'est un privé
c'est une SEM, hein, donc une SEM
société
d'économie mixte, dont la mairie du Gros-du-Roi est majoritaire, mais il y a également certains privés qui sont dedans. Et donc nous fonctionnons comme des privés avec les entrées du Sicuarium. Les 300 000 entrées annuelles nous permettent donc d'équilibrer notre bilan et de continuer à progresser et de développer les différentes présentations.
Merci beaucoup Jean-Marc Groul, le directeur du Sicuarium qu'on recevait aujourd'hui, qui nous a présenté l'aquarium dans le détail et puis qui est venu nous parler de cette fameuse... cette actualité, quoi, hein, c'est le grand requin blanc, c'est une réplique de ce grand requin blanc jamais trouvé. Il a été trouvé en France, hein, c'est ça?
Non, celui-ci a été pêché. Il y en a un qui a été pêché à Malte, qui était très très gros. Celui-ci avait été pêché à l'époque à Cuba.
À l'époque à Cuba, voilà. 6m40, hein, voilà. 6m40.
Une femelle.
Une réplique d'une taille réelle. Allez le voir donc dès samedi 12 juin à partir de 9h30.
Ça, c'est ça, exactement.
Les horaires d'ouverture. Et puis, si vous voulez un petit peu plus de renseignements sur le Sicuarium, c'est sicuarium.fr. Ça se situe au Gros du Roi. Alors, je donne le téléphone du Sicuarium, c'est 04 66 51 57 57. J'espère que je ne me trompe pas. C'est bien ça, Jean-Marc. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Merci.
À très bientôt. On enchaîne avec une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Aurélie Dumigny qui vient nous présenter la ferme dorée.
À ma franche passivité, j'attends avec incontinence les grands progrès de la France, de la tolérance et surtout de mes finances. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller.
Oui, mais où?
Allez, faut y aller. Allez.
faut y aller. Allez, faut y aller.
Oui, mais où?
Allez, faut y aller.
Pas n'importe où.
Allez, faut y aller.
Oui, mais pas n'importe où. Pas n'importe où.
De retour, vous êtes sur Divergence FM avec l'hebdo du Sherpa. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités, Jean-Marc Groul, avec qui on vient de discuter pendant un bon quart d'heure, du Sequarium, puisqu'il en est le directeur, le Sequarium du Gros du Roi, à ne surtout pas rater. Et allez voir donc ce samedi 12 juin la réplique du plus grand requin blanc du monde, carrément. Allez, j'en fais un peu des tonnes, mais tant pis. 6m40, à ne pas rater. Donc ce samedi 12 juin, notre deuxième invité, c'est Aurélie Duménie, qui est la responsable de la ferme Dorée. Elle me disait hors antenne, je suis avant tout agricultrice. Alors oui, bien sûr, mais pas une agricultrice comme les autres, puisque Aurélie a dans sa ferme des lamas. Ce qui est quand même particulier, insolite.
Voilà, insolite,
pas
tout
si
à fait.
Pas si courant que ça. Hein. Comment en fait, ça fonctionne, cette ferme, alors?
Bien, en fait, c'est une création d'activité. J'étais au chômage et j'ai toujours eu un penchant pour les animaux, sans savoir exactement ce que je voulais faire. Et puis, il y a eu un déclic dans ma vie qui fait que voilà, j'ai décidé de devenir éleveuse de lamas et de chèvres angora.
Bah, au moins, c'est précis. Hein. Quand lama pas content, lui, toujours faire ainsi. Hein, c'est la fameuse réplique dans Tintin qu'on doit sans arrêt vous sortir, j'imagine. Alors, est-ce que le lama crache?
Oui, monsieur, le lama crache.
Alors, pourquoi crache-t-il?
Pour se défendre. Ah. En fait, c'est un animal herbivore qui a l'habitude d'être mangé. Donc, sa première réaction sera de fuir. Et si jamais il n'y a pas d'échappatoire, eh bien, sa défense sera de cracher, au même titre que le chien mordra, le chat griffera, le lama crachera.
D'accord. Alors, vous êtes responsable de cette ferme et vous avez créé cette ferme depuis combien de temps à peu près?
Ça fait deux ans. Deux ans que je fais l'élevage de lamas.
Ça a commencé par les lamas ou par les chèvres?
Ça a commencé par les lamas parce qu'au début, je voulais vraiment faire que des petits camélidés, puisque c'est la famille des petits camélidés. Et donc, je voulais faire le lama et l'alpaga. L'alpaga pour le côté, pour la laine en fait, hein, pour des articles textiles, pour produire des articles textiles. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution de mon projet et au gré de mes rencontres, j'ai découvert la chèvre angora et je suis littéralement tombée amoureuse de cette chèvre.
Et oui, on en voit d'ailleurs des belles photos sur votre site internet, moher-et-lama.fr, on en reparlera à la fin de l'émission. Vous êtes basée à Rougen.
Oui, c'est ça.
Pourquoi Rougen ?
Parce que c'est très difficile dans l'Hérault de trouver des terres et que j'ai eu l'occasion de trouver 5 hectares d'un seul tenant et ça m'a fait déménager à Rougen.
Le lama s'acclimate bien à notre région ?
Le lama s'acclimate carrément partout.
Partout, ouais.
La seule difficulté pour lui, c'est nos grosses chaleurs estivales. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'un lama moyennement lainé, puisqu'il existe différentes variétés par rapport à la laine. Uh-huh. Et je les tonds une fois par an, donc vers le mois de mai-juin. Ils sont tous tondus pour pouvoir supporter les chaleurs.
Il y a combien de lamas ?
Actuellement, il y en a 7, dont ouais. Un petit dernier de 15 jours.
Et c'est du boulot de les tondre, non ? Il faut être plusieurs pour attraper la bête ou... toute seule, c'est réglé
Non, je fais ça toute seule, comme une grande.
Ah, vous êtes très costaud, alors. Hein, hein, Jean-Marc?
Je ne fais pas de prise de catch.
Il ferait ça, Jean-Marc? Il fait ça avec les requins, Jean-Marc? Non.
Non, pour l'instant, on n'a pas essayé, mais bon...
Vous ne tondez pas vos requins.
Vous ne tondez pas vos requins, Jean-Marc? Pourtant, ils ont beaucoup de poils, les requins. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, bah, c'est du boulot hein, de tondre ces bêtes-là. Ça se fait à quelle saison?
Je les tonds au mois de mai, les lamas.
Juste avant l'été.
Juste avant l'été, voilà. Et en fait, c'est des animaux à partir du moment où on les a mis en confiance et ça se laisse tondre très tranquillement.
Vous dites dans votre site internet, le lama est le nouvel animal de compagnie. C'est vrai ça?
Bah, oui, c'est vrai ça.
J'en ai pas
ça.
Chez moi. Alors comment on fait alors?
Alors, faut avoir un petit peu d'espace quand même.
Un petit peu d'espace quand même. Hein. C'est pas non plus un petit lapin.
Oui, en fait, le lama est utilisé pour de l'entretien de parc. Il y a des randonneurs aussi qui l'utilisent comme animal de bas, puisqu'il randonne très bien et peut porter jusqu'à 30 à 40 kilos. Après, il y en a aussi qui l'utilisent comme animal de compagnie.
L'origine du lama, est-ce que c'est le, je vais peut-être dire des bêtises, hein, le Pérou, la Bolivie ou pas forcément?
Vous avez tout juste.
Bon, c'est bon alors.
J'ai L'Amérique du Sud en général.
L'Amérique du Sud en général, ouais. D'où viennent vos lamas?
Les miens sont nés en France. Ils ont pourtant des origines argentines, chiliennes. Et des importations du Canada aussi.
Alors, le lama dans la ferme dorée, vous les utilisez, entre guillemets, pour des randonnées, c'est bien ça ? Que c'est que pour les randonnées ou...
Alors, en fait, la base, c'est un élevage. Donc, je fais de l'élevage de lama et je vends des jeunes. Ça, c'est ma production principale.
Qui achète des lamas aujourd'hui ?
Ça peut être le particulier qui a donc un parc à entretenir ou des terrains en broussailles. Ça peut être aussi des éleveurs qui veulent constituer un troupeau et, comme je vous l'ai dit, des randonneurs qui veulent faire une sortie originale.
Mais c'est vrai que c'est original. Alors justement, vous organisez pas mal de randonnées. C'est dans quelle région les randonnées là ?
C'est autour de l'exploitation, sur Rougen.
Vous avez suffisamment d'espace pour la randonnée ou vous allez au-delà de votre territoire, j'imagine ?
Alors non, pour l'instant, tout est centralisé sur Rougen et les alentours, puisqu'on a la chance d'avoir un espace protégé. C'est de la garrigue, c'est très joli, il y a des collines un peu montagneuses, on a de très beaux paysages.
Alors comment ça fonctionne ? Alors là vous êtes ouvert à partir de là vous êtes déjà ouvert là hein, pour recevoir du public là.
Oui, en fait depuis Noël déjà j'accueille du public puisque j'ai passé 2 ans à mettre en place la production. Et voilà, donc là en ce moment on est en horaire en basse saison, c'est-à-dire que jusqu'à fin juin la ferme est ouverte 4 jours par semaine, du vendredi au lundi et de 13h à 16h, et ensuite au mois de juillet on passe sur les horaires d'été.
Les randonnées, là, donc, ça se passe sur 2 heures à peu près ?
La randonnée, c'est au choix de chacun, en fait. Il suffit de téléphoner, de réserver le lama pour 1, 2, 4 heures.
Alors, le téléphone, justement, pour réserver ?
Alors, le téléphone, c'est le 06 11 13 40 44.
Et vous tomberez sur Aurélie ?
Sur moi, voilà, c'est tout ça à fait.
Sur Aurélie, la femme qui tond les lamas, hein, voilà. Alors, on a beaucoup parlé des lamas et puis on va quand même parler un petit peu de la chèvre angora, a priori qui alors connue en Asie, mais est-ce qu'elle vient d'Asie ? Pas forcément ?
Elle vient de Turquie, en fait, de la région d'Ankara.
Et quelle est la particularité de ces chèvres, alors ?
Alors, c'est une chèvre qu'on élève pour sa toison, c'est le mohair.
Et... Alors, en même temps, c'est vrai que je le fais en direct live, hein, je regarde les photos sur Internet. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont particulières, oui.
Elles sont blanches et frisées, hein, pour le particulier, je précise.
Alors, donc c'est de ces chèvres que vous tirez la laine donc pour la boutique, c'est ça ?
Voilà, donc en fait, je fais l'élevage des chèvres, je fais de la reproduction et je tonds les animaux 2 fois par an. Je récolte environ 3 kg de mohair par animal à chaque tonte. Et ensuite, cette laine va être triée en fonction de sa finesse et de sa qualité. Et ensuite, elle est confiée à des façonniers au sein de la SICA Mohair. C'est une organisation agricole, oui. Et donc, c'est la SICA Mohair qui va trouver tous les façonniers français qui vont faire la mise en ruban.
Vous êtes nombreux en France à élever des lamas et des chèvres angora ? Alors, surtout des lamas, parce que c'est vrai que c'est plus intriguant, on va dire.
Les lamas, on doit être à peu près 100. Et pour les chèvres angora, c'est pareil, on est 120 à peu près.
Alors... merci beaucoup Aurélie. Donc, si vous voulez visiter la ferme dorée, c'est possible aussi. Hein, on peut faire la visite de la ferme.
Tout à fait. Il y a une boutique mohair à la ferme. Il y a les visites guidées de l'élevage. J'explique comment je le fais, pourquoi je le fais. Et voilà. Et puis, il y a aussi la location de lama, donc pour aller randonner.
D'accord. Ah oui. C'est-à-dire, on peut l'utiliser hors de votre parcelle ou bien.
Oui, tout à fait. Voilà, vous partez randonner sur des chemins balisés.
Avec un guide ou pas forcément ?
Seul, je vous donne une carte IGN. D'accord. Le lama, c'est très facile à conduire. Et je vous indique les meilleurs chemins pour les meilleurs points de vue.
Et si on n'a pas son permis, c'est pas grave, on y va quand même. Il est gentil, le lama, par rapport à un cheval ?
Tout à fait, oui. Il n'y a pas de par rapport à. C'est un animal qui est très docile, qui a été élevé depuis quelques siècles déjà. Et donc, qui vous accompagnera sans aucun problème.
Merci beaucoup Aurélie Dumenet, qui est la responsable de la ferme dorée basée à Rougen et spécialisée dans la randonnée avec les lamas et puis la laine mohair avec les chèvres angora. On va redonner le téléphone d'Aurélie si vous voulez des renseignements, si vous voulez visiter la ferme ou si vous voulez faire tout simplement une randonnée avec les lamas. C'est 06, vous m'arrêtez hein, Aurélie si je me trompe, 06 11 13 40 44. C'est bien ça, la ferme dorée. Et ce soir, nous avions aussi la joie de recevoir Jean-Marc Groul, le directeur du Sicorium. Les renseignements pour le Sicorium, vous avez un téléphone à donner aux auditeurs, Jean-Marc ?
Oui, c'est le 04 66 51 57 57.
Une dernière. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Longue vie à vos activités réciproques. Je vous conseille également ce vendredi 11 juin le plateau d'impro, qui est une soirée d'improvisation théâtrale avec la compagnie des Sherpas à 21h. Réservation 06 37 75 57 92. Ou bien compagniedesherpas@gmail.com, c'est un spectacle d'impro avec les sujets du public et c'est très drôle. Allez-y hein, d'ailleurs, ne ratez pas ce spectacle. Merci beaucoup à tous les deux, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bonsoir.
Bonsoir.